La croix. La croix que représente-t-elle au juste ? C'est pour tenter de répondre à cette question qu'à la rentrée, nous avons rejoint les disciples de Jésus pour nous mettre avec eux à l'écoute du Maître et l'entendre nous aussi sur ce sujet. Ce que je propose aujourd'hui est de tendre encore l'oreille et de recueillir avec moi la suite et la fin de son témoignage tel que rapporté par Jean l'évangéliste. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles ou celles qui se trouvent devant vous dans l'évangile selon Jean au chapitre 12. Évangile selon Jean chapitre 12 et nous lirons d'abord les versets 27 à 30 histoire de rafraîchir un peu notre mémoire. Jean 12 donc, les versets 27 à 30 pour commencer. Maintenant, mon âme est troublée, dit Jésus. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Et la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient « un ange lui a parlé ». Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. » C'est là donc que commence le texte qui nourrira notre réflexion ce matin. Verset 31, « C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment peux-tu donc dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de la lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Nous arrêtons là notre lecture. Quelques mots ce matin encore pour situer ces paroles dans leur contexte. Nous sommes à Jérusalem, à l'intérieur du temple, dans cette zone particulière qu'on appelle le parvis des femmes. Jésus a réuni ses proches et s'entretient avec eux. Philippe et André, deux de ses disciples, viennent de lui faire part d'une demande d'audience faite par un groupe de non-juifs. Il n'y a pas donné suite, mais a immédiatement choisi de l'interpréter, cette demande donc, pour les siens, comme un signe, celui de l'avènement de son heure. L'heure du dessaisissement de sa vie, comme il l'appelle, pour le salut de tous les hommes. Un sacrifice qui s'est ensuite employé à présenter comme tout à la fois une nécessité absolue, un triomphe total, un précédent exemplaire, une souffrance extrême, une décision irrévocable et une révélation éblouissante, les 6 chapitres de nos 2 dernières méditations. Et nous voici parvenus au texte que nous venons de lire et dans lequel la croix nous est présentée cette fois comme un retournement inouï, un matin lumineux et un coup insupportable. Un retournement inouï d'abord. Verset 31, c'est maintenant, dit Jésus, qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Avançons dans le temps et efforçons-nous un instant de nous mettre à la place d'un disciple anonyme, présent sur le lieu du crâne, comme on l'appelle, Golgotha, qui aperçoit Jésus cloué sur une croix, comme figé par la douleur, hurlant, agonisant. Que se dit-il ? C'est affreux. Le monde et son prince voulaient sa peau, ils l'ont eue. Mais alors, nous aurait-il berné ? Il nous assurait encore récemment être le sauveur que nous espérions, venu dans le monde pour terrasser le mal et nous offrir à nous, ses fidèles, en même temps que le pardon de nos fautes, la vie éternelle. Et le voici partageant le sort d'un vulgaire criminel, impuissant à se sauver lui-même et sans autre espoir qu'une mort rapide. Nous aurait-il floué ? Et si oui, quid de notre espérance ? C'est sans doute pour prévenir ce genre de déception par trop vive, amère, déchirante même, que Jésus tient ici à rectifier nettement les choses. Non, la croix n'est pas l'inquiétant, que dis-je, l'effroyable triomphe du monde et de son prince sur le Christ de Dieu, paru pour apporter aux hommes un salut éternel. Mais leur défaite, au contraire, leur jugement et leur condamnation. Que se passera-t-il en effet lorsque Jésus expirera ? Deux choses en rapport avec notre sujet. Primo, le monde, par quoi il nous faut entendre ici la société humaine en rébellion contre son Créateur, le monde se perdra. En clouant Jésus au bois, il se privera lui-même et définitivement du seul nom par lequel il pouvait encore être sauvé. En croyant régler son compte une bonne fois à celui qui pourtant ne lui avait jamais proposé que lumière et vie, il scellera lui-même son funeste destin, ténèbres et mort. Et secondo, le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, lui, sera jeté dehors, expulsé, détrôné, autrement dit, privé du pouvoir immense qui lui aurait été concédé jusque-là. Alors, en effet, il ne pourra plus ni résister à Christ, ni à son Église, lorsque ils se présenteront conjointement pour piller littéralement son royaume en libérant un à un ses captifs. Ni continuer de dominer sur ces véritables rescapés de l'enfer qui auront fait l'expérience d'une véritable renaissance par la foi. Comme l'affirmera plus tard Jean, l'apôtre, dans une lettre pastorale, contre ceux qui sont nés de Dieu, je cite, « le mauvais ne peut plus rien ». Souvenez-vous de cette parole forte de Jésus à propos de ceux qu'il appelle ses brebis. « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra plus les arracher de ma main. » Ainsi, le retournement opéré par la croix sera-t-il bien proprement inouï ? Ceux qui, pensant qu'ils triomphaient, auront commencé de se congratuler, ceux-là, le monde et son prince, mordront brutalement la poussière. Et tandis qu'ils seront comme balayés hors de vue, celui qu'ils croyaient avoir défait, celui-là, Jésus, sera élevé. Élevé si haut qu'il suffira que son nom soit prononcé pour que tous, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, plient le genou et le proclament, lui, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un retournement inouï. Et nous voici parvenus tout naturellement à ce nouvel aspect de la croix que nous avons choisi de résumer ainsi, un matin lumineux. Un matin lumineux. Versets 32 et 33. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, dit Jésus. » Et Jean a porté cette précision par ses paroles. Il indiquait de quelle mort il allait mourir. Certes, en parlant de son élévation prochaine, Jésus parle de la croix. Mais pas seulement. De sa glorification à venir également. C'est Xavier Léon Dufour, un commentateur spécialiste des écrits de Jean, qui écrit « Le terme élevé est à double sens. Il dit la verticalité de la croix et en même temps celle de l'exaltation. Il implique que la croix est le lieu où commence la remontée du Fils vers le Père. » Ainsi, Jésus nous présente-t-il la croix ici non comme un terme, ce que d'aucuns auraient pu croire, mais comme un commencement, l'aube d'un jour nouveau, un matin lumineux. Lumineux pourquoi ? Parce que ne marquant rien de moins que le début d'une œuvre de salut unique et glorieuse, celle confiée au Fils, à Jésus donc, crucifié, oui, mais rendu à la vie au troisième jour, et élevé en gloire à la droite du Père, et qui devait consister pour lui à, verset 32, attirer tous les hommes à lui. Le début d'une œuvre unique et glorieuse, consistant à attirer tous les hommes à lui. Alors là, je m'arrête. Le temps de clarifier autant que faire se peut la signification de cette formule choisie par Jésus lui-même pour résumer son projet, attirer tous les hommes à lui. Attirer d'abord. Alors on a cherché à atténuer le sens de ce verbe à tort. Il est fort, très fort, dans le Nouveau Testament en particulier. C'est tirer comme on tire une épée de son fourreau. C'est extirper comme on extirpe un indésirable hors du temple. C'est hisser enfin comme on hisse un filet de pêche. Il ne s'agira donc pas pour le Fils élevé, exalté, glorifié, d'attirer au sens d'allécher tous les hommes, en leur tenant un discours séduisant, destiné à les convaincre de le rejoindre. On n'appâte pas, on ne charme pas des morts. Non, mais plutôt de les saisir, après qu'il les aura comme extraits de leur tombe et rendu à la vie par l'Esprit, les saisir pour les hisser jusqu'à lui. Et là, leur donner la vie éternelle. Ce dont Jésus parle donc ici n'est pas d'un prêche dont ils espéreraient qu'il toucherait le cœur des hommes, entraînerait leur adhésion et les mettrait en mouvement vers lui, mais bien d'une forme d'élitreuillage, vous savez, d'élitreuillage spirituel. Une intervention de sa part souveraine, gracieuse, puissante et irrésistible, par laquelle il réalisera pleinement l'admirable, le glorieux projet que son Père lui-même conçut jadis. Je veux dire sauver les hommes en les exfiltrant, si je puis dire, de l'abîme pour les emporter vers les hauteurs, celle-là même qu'il habitera alors et où tout n'est plus que lumière et vie. Et je dis à la grâce de Dieu, qui n'a pas souffert de nous abandonner au pouvoir de la mort, mais qui a confié au Fils en gloire le soin de nous y arracher lui-même, en nous attirant à lui, afin que, transposés dans sa présence, nous goûtions là pleinement les délices d'une vie qui ne finit pas. Sans cette intervention, mes amis, comprenons-le bien, morts nous le serions. nous le serions encore et pour toujours. L'expression « tous les hommes » maintenant, je serai bref, renvoie-t-elle à tous les hommes sans exception ? C'est l'avis de certains que l'on désigne généralement sous le nom d'universaliste parce que persuadés que tous, sans exception, seront sauvés finalement. Le problème ici est que cette interprétation va à l'encontre de ce qu'enseignent par ailleurs et sans embâge les Écritures. À savoir que tous, hélas, mais tous n'hériteront pas la vie éternelle. Comment comprendre alors l'expression « tous les hommes » dans la bouche de Jésus ? Comme le fait justement remarquer Don Carson, elle nous ramène à ce qui est à son origine, je veux dire la venue de non-juifs souhaitant voir Jésus. Et notre exégète bien-aimé de conclure, il faut entendre donc tout le monde sans distinction, juif et non-juif, plutôt que tout le monde sans exception. Sans distinction, plutôt que sans exception. C'est pourquoi j'ai parlé de matin lumineux. Parce que la croix pour Jésus, c'est cela aussi, l'aube d'un jour radieux, où tous, vous et moi compris, pourront devenir les cibles bienheureuses de la grâce divine et les héritiers comblés d'un salut éternel. La croix, écrite encore Don Carson, je cite, et l'événement crucial du ministère de Jésus, celui par lequel seront attirés à lui tous les hommes, sans distinction, et non seulement les juifs. Telle est la réponse implicite donnée aux non-juifs. L'heure est venue pour lui de mourir et d'être exalté dans le sillage de cette passion glorification. Ils pourront s'approcher de lui aussi librement que les enfants de l'ancienne alliance. Mais il nous faut poursuivre et considérer maintenant ce dernier aspect de la croix dévoilé dans notre texte. Un coup insupportable. Un coup insupportable. Versets 34 à 36. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire, il faut que le Fils soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? Et Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de la lumière. » Commençons par saluer ici la sagacité dont la foule fait preuve ici, une sagacité à laquelle, il faut bien le dire, elle ne nous a pas vraiment habitués. Elle a compris qu'il existait un lien entre Jésus, le Fils de l'homme, et le Messie. Rien à dire, sinon, bravo. Mais il nous faut rendre compte maintenant de sa perplexité. Minute, Jésus. Nous étions prêts à croire que tu étais le Messie. Et voilà que tu nous parles de ta mort. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le Messie, cher Jésus, le Messie, lui, il ne peut pas mourir. L'Écriture sur ce point est sans détour. Faut-il donc que nous ne retenions parmi les titres que tu t'es donné que celui de Fils de l'homme ? Oui, mais alors, qui es-tu vraiment ? Qu'est-ce que ce Fils de l'homme, qui ne serait pas le Messie. Et là, on brûle d'entendre la réponse de Jésus, bien sûr. Nul doute qu'il va expliquer à la foule que le Fils de l'homme et le Messie, c'est la même chose. Et que pour accomplir pleinement son œuvre messianique, le Fils de l'homme doit mourir, ou si vous préférez, que c'est en mourant justement qu'il apparaît parfaitement comme le Messie, sauveur de tous les hommes sans distinction. Sauf que Jésus, lui, ne répond pas. Ça lui arrive. Et il ne répond pas. Mais encourage tous ceux qui l'entourent à prendre conscience d'une réalité plutôt sombre. Si la croix est un coup mortel porté au prince de ce monde, elle n'est pas le coup de grâce qui leur a été promis. Cette estocade finale est pour le dernier jour. Alors seulement, et je vous renvoie au livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, « Alors seulement Satan et ses suppôts seront précipités dans les tentes de feu et de soufre pour y être, je cite, « tourmentés jour et nuit au siècle des siècles ». Alors seulement. En attendant, les disciples doivent savoir, et nous avec eux, que l'ennemi de toujours ne restera pas inactif. Fatalement atteint, il l'est, certes, mais encore terriblement vigoureux. Assez en tout cas pour continuer de présenter pour tous une menace redoutable. C'est Pierre, l'apôtre, qui écrira bientôt « Soyez vigilants, mes amis. Votre adversaire, le diable, rôde comme un loup rugissant, cherchant qui, ici, dévorer. » Il sait qu'il est cuit, si je puis dire. Mais aussi longtemps qu'il n'aura pas été définitivement terrassé, il fera tout, et quand je dis tout, c'est tout, pour reconquérir le pouvoir qui était le sien avant la croix et repeupler son royaume en y ramenant un à un ceux que son bourreau, Christ, lui a ravis. D'où l'appel de Jésus au verset 35, c'est ma paraphrase. « Mes amis, puisque les ténèbres n'ont pas dit leur dernier mot et que notre adversaire commun n'aura de cesse que vous soyez retombés sous sa coupe, soyez vigilants. Veillez à ce que les ténèbres ne vous surprennent pas. Vous ne sauriez plus alors où vous allez. » Et Jésus d'inviter aussitôt la foule qui l'entoure à s'attacher à lui, la lumière, et à le suivre, lui, dans la lumière. Parlant de lui-même, la lumière, je suis la lumière, a déjà dit Jésus. Parlant de lui-même, la lumière, la vraie, la seule, il dit au verset 35, « La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. » Avant de conclure, dans le même verset d'abord, « Marchez pendant que vous avez la lumière », puis au verset 36, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de la lumière. » Autrement dit, vous ne voulez pas être repris par les ténèbres. C'est simple. Regardez-moi bien, moi, la lumière, pendant que je suis encore parmi vous, et ayez confiance en moi. Et puis, inscrivez vos pas dans les miens. Vivez comme j'ai vécu, dans la lumière. Quelle conclusion pour nous aujourd'hui, brièvement. Nous sommes face à un adversaire proprement enragé. C'est ainsi qu'il est décrit par le Nouveau Testament, un adversaire proprement enragé, depuis la croix, précisément. La défaite qu'il y a subie, lui, est insupportable. Il n'aura donc de cesse qu'il se soit vengé. Sur qui ? Sur nous, Christ étant désormais hors d'atteinte. Sur nous, qui avons été souverainement arrachés à son pouvoir. Que faire donc ? D'abord, mettre toute notre confiance en Jésus pour nous protéger. Il l'a promis, il le fera. Pour nous protéger des assauts redoutables du malin et rester, demeurer exposé toujours à sa lumière, de peur que les ténèbres nous reprennent et qu'alors, comme perdus dans la nuit, nous ne sachions plus où nous allons. Ensuite, nous appliquer à reproduire son exemple et être ainsi ce qu'il appelle, au verset 36, des enfants de lumière dans le monde. C'est-à-dire, en deux mots, des êtres qui, parce qu'ils sont habités par elle, font rayonner parmi les hommes sa lumière. À tel point que l'on peut dire d'eux qu'ils sont devenus à leur tour lumière du monde. Ça ne vous rappelle rien ? Vous êtes, nous sommes, la lumière du monde. Bonté, justice et vérité font partie, si l'on en croit l'apôtre Paul, de ces qualités caractéristiques de la lumière. Bonté, justice et vérité. Autant de qualités caractéristiques de la lumière qu'ils expriment toujours plus nettement, histoire de rendre Dieu perceptible à leur génération enténébrée. Quant à leurs œuvres, à ces enfants de la lumière, elles méritent d'être qualifiées de bonnes ou belles, comme nous le disions jeudi dernier, parce que reflet rayonnant des œuvres mêmes de Dieu est propre de ce fait à inspirer aux foules ébahies des chants émouvants, célébrant avec force la gloire du Père, notre Dieu, qui est dans le ciel. C'est précisément le projet que Jésus a déjà dévoilé à ses disciples au début de l'évangile selon Jean et dans son sermon sur la montagne. Ainsi, mais ainsi seulement, nous saurons, nous, où nous allons. Parce que nous avons inscrit nos pas dans ceux du Christ, dans la lumière. Nous saurons, nous, où nous allons. Vers la lumière, précisément, dans laquelle nous révèle déjà le prophète Daniel. Nous brillerons, je cite, comme les étoiles, pour toujours, à perpétuité. Vers la lumière, dans laquelle nous brillerons pour toujours et à perpétuité, comme les étoiles dans le ciel. Daniel 12, verset 4, pour le cas où vous voudriez vérifier. Il nous faut conclure. La croix, donc, un sacrifice que Jésus a souhaité nous présenter comme tout à la fois, je résume, une nécessité absolue, un triomphe total, un précédent exemplaire, une souffrance extrême, une décision irrévocable, une révélation éblouissante, et puis, nous venons de le voir, un retournement inouï, un matin lumineux, et pour finir, un coup insupportable. Puissions-nous maintenant prendre le temps, chacun pour soi, de revenir sur chacun de ces aspects dans un esprit de recueillement et d'adoration. Et en nous-mêmes, offrir à celui qui en a connu les affres pour nous, les affres de la croix, le témoignage de notre reconnaissance infinie.